Pictura Poésie présente un nouvel épisode de son podcast, Le Cercle de la Bougie.
John Keats, mort en 1821 à Rome. Il avait seulement 25 ans.
Oui, c'est incroyablement jeune.
Une carrière de poète, quelques années à peine. Et pourtant, quel héritage ! Un des plus grands noms de la poésie anglaise. C'est assez vertigineux.
Complètement.
Comment une vie si courte, une flamme si brève, a pu laisser une empreinte si profonde, si durable ? C'est la question, non ?
C'est la grande question avec Keats, oui.
C'est ce qu'on va explorer un peu aujourd'hui. On s'appuie sur une analyse assez détaillée de son œuvre, de son héritage aussi. Le but, c'est de comprendre d'où vient cette grandeur.
Ah oui.
On va parler de sa vision de la beauté, avec un grand B, de la force de sa poésie, une force presque physique, sensorielle.
Mm-hmm.
Et puis, comment sa vie, quand même tragique, a nourri son art, paradoxalement peut-être.
Oui, c'est un point clé.
Et on verra aussi son influence qui va bien au-delà de la poésie, jusque dans la peinture, par exemple. Bon, alors, on y va. On plonge dans l'univers de Keats.
Allons-y.
Alors, pour commencer, Keats et la beauté. C'est un peu la clé d'entrée, on dirait. Il y a cette phrase très célèbre. « A thing of beauty is a joy forever. » Une chose de beauté est une joie éternelle.
Oui, tirée d'Endymion. C'est fondamental chez lui.
Mais c'est pas juste une jolie phrase, si. C'est plus que ça.
Ah oui, bien sûr. C'est vraiment le cœur de sa pensée, de sa philosophie, si on veut. Pour Keats, la beauté, c'est pas juste... l'esthétique, c'est une forme de vérité, avec un grand V aussi.
La vérité, comment ça ?
Bah, y a l'autre citation, celle de l'ode sur une urne grecque. « Beauty is truth, truth beauty. » La beauté est vérité, la vérité beauté. C'est presque une équation, quoi.
D'accord.
Face à un monde qui change tout le temps, qui est marqué par la souffrance, la maladie, des choses qu'il connaissait très près, malheureusement, la beauté pour lui, c'est ce qui reste. C'est une sorte de point fixe. Une valeur absolue, une connaissance intuitive.
Mm.
Et donc tout son travail de poète, c'est d'essayer de capturer ces moments de beauté. Des moments souvent très fugaces. Hein.
Comme quoi, par exemple ?
Bah, le goût d'un fruit, un chant d'oiseau, la forme d'une urne grecque. Et l'art, la poésie, ça permet de leur donner une forme de permanence, d'éternité presque.
Et ce qui est frappant quand on le lit, c'est justement ça, cette capacité à rendre les choses... présente, vivante, sa poésie est incroyablement sensorielle.
Oui, tout à fait.
C'est pas juste une description qu'on lit, on a l'impression de goûter le vin dont il parle dans l'ode à un rossignol, de sentir la fraîcheur de l'herbe, la chaleur d'une main.
C'est exactement ça. C'est une immersion.
Oui, une immersion physique presque. C'est comme s'il arrivait à toucher directement nos sens sans passer par l'intellect. C'est là que ça devient vraiment puissant. Cette texture des mots.
Exactement. Cette intensité, elle est cruciale. Elle prend une dimension encore plus forte quand on la relie à sa vie, justement.
À sa maladie, à la tuberculose, hein ?
Oui, entre autres. Il perd ses parents très jeune. Son frère Tom meurt de la tuberculose. Et il sait très tôt qu'il est atteint lui aussi.
Ah oui, c'est terrible.
Cette conscience de la fragilité de tout, de la mort qui rôde, ça infuse toute son œuvre. Mais au lieu de le paralyser, cette angoisse, elle devient un moteur.
Un moteur.
Oui. Un moteur pour chercher désespérément ce qui dure. Et ce qui dure, pour lui, c'est la beauté. Celle que l'art peut saisir et d'une certaine manière immortaliser.
Donc cette quête de beauté, c'est pas une fuite du réel alors ?
C'est plutôt une façon de l'affronter. De chercher quelque chose qui résiste.
C'est exactement ça. Il ne fuit pas la réalité, non. Il essaie de la transfigurer. De trouver une permanence dans l'éphémère. Et il y a une tension constante dans ses grands poèmes.
Une tension entre quoi et quoi ?
Ben, entre cette beauté éternelle de l'art et la brièveté de la vie humaine. Entre l'idéal, le désir de bonheur et la réalité de la souffrance, de la maladie, de ce qu'il appelle la lassitude, la fièvre et l'inquiétude.
Je vois. C'est cette tension, cette oscillation entre l'extase et l'angoisse qui donne à sa poésie cette vibration si particulière, cette profondeur émotionnelle. Il ne donne pas de réponse toute faite, hein. Il explore cette complexité.
Et pour explorer ça, il trouve une forme qui lui va bien, l'ode.
Oui, l'ode lyrique.
Ils ne l'inventent pas, mais ils la poussent à un niveau incroyable. Surtout en 1819. Cette année-là, c'est fou ce qu'il écrit.
Une année miraculeuse, oui. Compte tenu de sa santé qui déclinait déjà, les grandes odes de 1819, c'est le sommet de son art. Des chefs-d'œuvre de forme, de pensée, d'émotion.
Alors, parlons-en un peu. L'ode sur une urne grecque, par exemple. C'est peut-être la plus célèbre, non ?
Oui, sans doute la plus commentée. Le point de départ est très visuel. Le poète regarde une urne antique.
Avec des scènes gravées dessus ? Oui, des musiciens, des amoureux qui vont s'embrasser, une procession, des moments figés dans le temps.
Exactement. Figés pour l'éternité. Et cette contemplation, ça devient une réflexion sur l'art et la vie.
C'est-à-dire ?
L'urne, elle représente la beauté parfaite, oui, qui ne change pas. Les amants y seront toujours jeunes, leur amour toujours sur le point d'éclore. La musique, elle jouera toujours. C'est la promesse de l'art, échappée au temps.
Mais, il y a un mais, j'imagine.
Oui, il y a un mais. Keats souligne aussi le paradoxe. Cette beauté, elle est parfaite, mais elle est froide, silencieuse, figée.
Ah oui.
Il écrit « Les mélodies entendues sont douces, mais celles qu'on n'entend pas le sont plus encore. C'est beau, mais ça n'a pas la chaleur, le désordre, la vie. Même si la vie, elle, est condamnée à finir. »
Et la fameuse conclusion, alors « Beauty is truth, truth, beauty. »
C'est là que ça devient complexe. La beauté est vérité, la vérité beauté, c'est tout ce que tu sais sur Terre et tout ce qu'il faut savoir. On peut l'interpréter de plein de façons. Est-ce que c'est Keats qui parle? Est-ce que c'est l'urne? Est-ce une affirmation absolue? Ou est-ce une vérité limitée à l'art? Belle, mais incomplète.
Ça laisse à réfléchir. Cette idée d'une beauté éternelle, mais peut-être un peu froide, un peu stérile, ça rejoint ce qu'on disait sur sa propre vie. Chercher dans l'art ce que la vie lui refuse. Il y a une mélancolie là-dedans.
Absolument. Et cette mélancolie, elle est encore plus présente dans l'ode à un rossignol.
Ah oui, celle écrite après avoir entendu un oiseau chanter.
C'est ça, dans le jardin de sa maison à Hampstead. Là, le désir d'évasion est très fort. Échappé à la souffrance, à la maladie, à la mort, le poète rêve de s'envoler avec l'oiseau, de se fondre dans la beauté de son chant, un chant qu'il imagine éternel.
Oiseau immortel, il lui dit.
Exactement. Tu n'étais pas né pour la mort, oiseau immortel. L'oiseau devient le symbole de l'art, de la poésie qui traverse le temps.
Mais est-ce que ça marche ? Est-ce que l'art le sauve vraiment ?
C'est toute l'ambiguïté. Le désir d'évasion est là, très puissant, mais à la fin, le chant s'éloigne et le poète est ramené à lui-même, à sa solitude, seul. Ce mot même est comme un glas qui me rappelle à moi loin de toi.
Ah.
Donc, l'art offre un moment de...
De transcendance, oui.
Un aperçu d'éternité, mais il n'abolit pas la condition humaine. Ça pose la question, à quoi sert l'art ? Consolation, évasion ou une exploration plus profonde de notre condition? Keats ne donne pas de réponse simple.
C'est fascinant. On a parlé beauté, mélancolie, mais il y a aussi des poèmes plus sombres, plus étranges chez lui. Je pense à La belle dame sans merci.
Ah oui, excellent exemple.
Là, on change complètement d'atmosphère. C'est une ballade, un style plus ancien, médiéval. C'est onirique, mais... inquiétant aussi.
Très inquiétant. C'est un poème plein de mystères. On a ce chevalier, tout seul, tout pâle, qui erre dans un paysage désolé.
Seul et pâle errant.
C'est ça. Et il raconte sa rencontre avec une femme sublime, une enfant de fée. Elle l'a séduit, emmené dans sa grotte, puis abandonné.
Et il se réveille hanté par des fantômes.
Oui, des rois, des princes, tout pâle, qui l'avertissent. La belle dame sans merci tend son pouvoir.
Brrr. C'est une histoire d'amour qui finit mal, mais ça semble plus que ça. Cette femme, elle est ambiguë.
Totalement. Qui est-elle vraiment ? Une créature surnaturelle ? Une hallucination ? Une allégorie de l'amour passionnel, sublime, mais potentiellement destructeur ?
On ne sait pas.
Non. Et c'est ça qui est fort. Le poème explore l'obsession, la séduction, la perte, la désillusion. Avec une sensualité très trouble, une angoisse latente. Il n'y a pas de morale claire. On reste avec ce mélange de beauté et de poison. C'est une autre facette de Keats. La beauté peut aussi être dangereuse. En fait, si on prend un peu de recul, on voit bien que Keats utilise toujours la beauté pour explorer des dualités fondamentales. Joie et peine, éphémère et éternelle, rêve et réalité.
L'art comme outil d'exploration, donc ?
Exactement, pas juste un refuge. Et sa maladie, la tuberculose, ça a sans doute accentué cette perception de l'urgence, de la fragilité, et ça a renforcé son ambition de laisser une trace. Il le dit, hein, je crois que je serai parmi les poètes anglais après ma mort. Il avait cette conscience de sa valeur et cette course contre la montre.
Et l'histoire lui a donné raison, même si de son vivant, c'était pas gagné. Il a été peu reconnu, voire critiqué assez durement, non ?
Oui, certaines critiques de l'époque étaient féroces. On se moquait de ses origines modestes, de son style jugé trop sensuel, trop cockney.
La reconnaissance est venue après sa mort.
Oui, assez vite en fait. À l'époque victorienne, il devient une figure centrale, presque un culte pour certains artistes et écrivains. Son influence sur les poètes qui suivent est énorme.
Et pas que les poètes, on l'a dit. La peinture, les pré-raphaélites notamment. Qu'est-ce qui les a attirés chez Keats ?
Plusieurs choses, je pense. D'abord, cette richesse visuelle, cette capacité à créer des images fortes, très sensorielles. Ça, pour des peintres, c'est du pain béni.
Logique.
Ensuite, son intérêt pour le Moyen-Âge, les légendes, qu'on trouve dans La Belle Dame sans Merci ou La Veille de la Sainte Agnès, ça collait parfaitement avec l'esthétique des pré-raphaélites.
Qui étaient-ils rapidement les pré-raphaélites ?
C'était une confrérie d'artistes fondée vers 1848. Rossetti, Millet, Hunt, ils rejetaient l'académisme de leur temps, inspiré de Raphaël, et voulaient revenir à la simplicité, l'intensité, le réalisme des détails des peintres italiens d'avant Raphaël, du Quattrocento.
D'accord, et Keats leur offrait des thèmes et une sensibilité qui leur parlait.
Exactement. Il trouvait chez lui une intensité émotionnelle, un sens du détail, une atmosphère qui résonnait avec leurs propres recherches.
Donc ils n'ont pas juste fait des illustrations de ses poèmes.
Non, c'était plus profond. Prenez La Belle Dame sans Merci. Ça a été un sujet favori pour eux et ceux qui les ont suivis. John William Waterhouse, par exemple, fin 19e. Sa Belle Dame n'est pas juste une fée éthérée. C'est une femme puissante, presque hypnotique, avec ses longs cheveux roux qui semblent piéger le chevalier.
Ah oui, on sent le danger.
Voilà, il capte cette ambiguïté, séduction et menace. D'autres, comme Frank Dixie ou Frank Cadogan Cooper, ont donné d'autres visions, parfois plus dramatiques, mais toujours cette fascination pour la figure créée par Keats.
Et on retrouve chez eux le souci du détail, de la nature, comme chez Keats ?
Tout à fait. Les pré-raphaélites aimaient peindre la nature avec une précision quasi botanique. Chaque fleur, chaque feuille a son importance, souvent symbolique. Ça fait écho à la façon dont Keats décrit la nature. Et puis, il y a toute l'iconographie. Les femmes aux cheveux longs, au regard intense, à la beauté mystérieuse. Ça doit beaucoup au personnage féminin de Keats. D'ailleurs, cette image de la Belle Dame sans Merci, peinte et repeinte, elle a beaucoup contribué à forger le mythe de la femme fatale à la fin du 19e siècle. Une influence qui va bien au-delà des pré-raphaélites.
C'est fou cette influence. Ça dépasse largement l'Angleterre et le 19e siècle en fait. On a parlé de Borges en Argentine.
Oui, pour qui Keats a été une révélation majeure. On pourrait citer Rilke en Allemagne, des poètes français. C'est vraiment un héritage international et qui dure.
Et puis il y a le mythe Keats aussi.
Jouer un rôle énorme. Le jeune homme pauvre, le génie fauché par la maladie, la mort tragique avec Fanny Brawne, la mort en exil à Rome.
L'archétype du poète romantique maudit.
Exactement. Ça a beaucoup contribué à sa légende et ça continue de fasciner. Sa maison à Rome, près de la place d'Espagne, c'est un lieu de pèlerinage. Et le film Bright Star de Jane Campion a aussi remis cette histoire en lumière récemment.
Aujourd'hui, sa place est incontestée, aux côtés des plus grands.
Oui, on le met souvent au niveau de Shakespeare pour la richesse de la langue, la profondeur.
Bon, alors si on essaye de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qui fait que Keats nous parle encore autant aujourd'hui ? C'est cette combinaison unique, non ? D'une sensibilité incroyable au monde physique, à la beauté.
Oui.
Mêlée à une conscience aiguë de la mort, de la souffrance.
Mm-hmm.
Et cette foi presque absolue dans le pouvoir de l'art, de la beauté, pour donner un sens, pour peut-être transcender tout ça.
C'est une excellente synthèse. Sa poésie ne donne pas de réponse simple, mais elle nous confronte aux grandes questions, aux grandes émotions humaines, avec une force et une justesse qui restent bouleversantes.
Et pour finir, peut-être une dernière pensée.
Ben, Keats cherchait l'immortalité dans ses poèmes. C'était sa façon de lutter contre le temps qui lui manquait cruellement. Et quand on voit comment son œuvre a été lue, relue, interprétée, comment elle a nourri tant d'artistes, peintres, musiciens, écrivains pendant 2 siècles, est-ce qu'il n'a pas réussi d'une manière encore plus riche qu'il ne l'imaginait ?
C'est une belle idée.
Sa vérité, sa beauté, elles ne sont pas juste figées dans ses vers. Elle continue de vivre, de se transformer à travers les autres. C'est peut-être ça la vraie victoire de l'art. pas arrêter le temps, mais dialoguer avec lui, sans cesse.